Bonjour à tous et à toutes. Ce n'est pas mon privilège de souhaiter la bonne fête des mères. C'est le privilège du président du culte aujourd'hui. Mais je profite quand même pour souhaiter aussi bonne fête des mères. Je reconnais que ça fait quelques temps que j'ai pris la parole parmi vous, hein. Souvent absent. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir ce matin avec vous à partager ensemble cette parole merveilleuse que le Seigneur a bien voulu nous laisser pour notre édification et pour l'accroissement de son règne sur cette terre. J'aimerais lire avec vous deux textes. Un premier texte dans le psaume 133. Un petit psaume. De David. Le psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la barbe, sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Premier texte. Et le deuxième, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 42. Acte 2, 42. Là, il est question du démarrage de l'Église au tout premier siècle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, un texte écrit par David et un autre écrit par l'apôtre Luc au tout début de l'Église naissante. Donc voilà les deux textes sur lesquels nous allons ce matin réfléchir un petit peu. J'aimerais commencer par ceci. Pourquoi, dans toutes les mairies de France, les mots « liberté », « égalité » et « fraternité » sont-ils inscrits sur le haut des bâtiments ? Pourquoi ces mots si lourds de sens et de symboles constituent-ils le fondement de la Constitution française? Pourquoi notre République a-t-elle pour base ces trois piliers, liberté, égalité, fraternité? Parce que ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, étaient la charte de la Révolution française de 1789, qui a inspiré celle de beaucoup de pays. En 1948, l'ONU a voté une déclaration universelle des droits de l'homme, inspirée de celle de 1789, qui affirme la liberté et l'égalité de tous les hommes. Dans l'histoire de l'homme, on a à juste titre, parlé de la liberté et de l'égalité des êtres humains. Beaucoup sont morts pour que des hommes et des femmes puissent vivre librement, sans s'inquiéter de la couleur de leur peau. Beaucoup ont donné leur vie pour que des hommes et des femmes puissent avoir les mêmes droits et les mêmes chances dans la société. Si les hommes ont milité pour la liberté et l'égalité, très peu ont agi pour la fraternité. Il y a quelques temps, certains personnages politiques veulent reprendre le terme fraternité. Et je me souviens de la campagne de Ségolène Royal qui avait son slogan « fraternité ». C'est très rare que les hommes politiques reprennent ce terme. Mais dans leur bouche, le mot fraternité a plutôt un sens associatif, militantisme. Nous voyons que l'homme a surtout négligé, voire rejeté, le sens profond de la fraternité selon la Bible. Et c'est normal, parce que l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut comprendre ce terme. Et c'est pourquoi l'homme parle de fraternité dans un sens philosophique, alors que la Bible parle de la communion fraternelle de frères comme une réalité de l'existence humaine. Dieu a créé les hommes pour qu'ils vivent en fraternité, dans la communion fraternelle. Le mot fraternité ne se trouve une seule fois dans l'Ancien Testament. Je dis bien, le mot fraternité ne se trouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. C'est dans le prophète Zacharie, chapitre 11, verset 14. Et dans ce passage, c'est l'idée d'unité. Nous savons tous que l'Ancien Testament est beaucoup plus gros que le Nouveau Testament. Ça, nous le savons tous, n'est-ce pas? On peut dire, grosso modo, que l'Ancien Testament est trois fois plus gros que le Nouveau Testament, en termes de nombre de versets. Mais ce qui est curieux, c'est que le mot fraternel apparaît huit fois dans le Nouveau Testament, et une seule fois dans l'Ancien Testament. Et le mot frère, apparaît 707 fois dans l'Ancien Testament et 350 fois dans le Nouveau Testament. Donc, cela veut dire que le mot frère a tout son sens dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, c'est essentiellement dans le Nouveau Testament que nous pouvons comprendre le sens profond de ce que Dieu a voulu pour l'homme. Et dans le Nouveau Testament, le mot communion fraternelle, du grec koinona, a l'idée partager la même pensée ou une même espérance, prendre part à une même cause. Et c'est le terme qui est le plus souvent utilisé pour parler de la communion fraternelle, koinonia. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il est question du rassemblement des chrétiens. Ils partagent la même foi, la même espérance et le même Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que c'est notre cas. J'espère que nous, ici présents, nous partageons tous la même foi en Jésus-Christ, la même espérance de son retour glorieux, et que nous avons tous le même Dieu en Jésus-Christ. Amen. J'espère que c'est notre cas, mes amis, de tout mon cœur. Au début de l'Église, lorsque l'Évangile a commencé à être propagé, la communion fraternelle était un pilier. Les chrétiens avaient l'habitude, avaient coutume de se retrouver ensemble parce qu'ils avaient compris que c'était ensemble qu'ils pouvaient avancer. Et c'est pourquoi la communion fraternelle était un pilier de l'Église naissante. Revenons à notre petit psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est le plus petit délicieux psaume qui attire notre attention et nous parle du bonheur et de la grâce de l'unité des frères. Ce psaume nous invite à considérer quels sont les éléments et les conditions d'une vraie communion fraternelle. Nous avons tous une idée générale de ce qu'est l'unité. Nous pouvons tous donner une définition de ce qu'est l'unité, de ce qu'est la communion fraternelle. Mais nous savons tous au fond de nous que la communion fraternelle est quelque chose d'agréable et de doux. Ces deux qualités ne sont pas toujours ensemble. Il y a des choses qui sont bonnes, mais pas forcément agréables. Comme il y a des choses qui sont agréables, mais pas forcément bonnes. Mais lorsque des frères sont unis dans l'amour et vivent l'unité selon Dieu, nous pouvons affirmer avec force que ce qu'ils vivent est agréable et doux, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Lorsque des frères et des sœurs vivent dans l'unité selon le Seigneur Jésus-Christ, on peut dire que c'est doux, que c'est agréable de les voir. Alors, quelles sont les images que David prend pour illustrer sa pensée? Parce que ce psaume 133 a été écrit par David. David utilise deux images. La première, l'image de l'huile sacrée pour la consécration des sacrificateurs de Dieu. Et l'autre image, c'est la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon qui descend de la montagne. Et il y a une similitude dans ces deux images. Et ce qui est commun dans ces deux images, l'huile précieuse et la rosée, c'est le verbe descendre. David prend deux images où le verbe descendre est important. C'est le verbe clé. L'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement, comme la rosée descend du haut de la montagne sur toute la plaine. Le verbe descendre. Rassurez-vous, on va analyser cela tout à l'heure. Pour l'huile précieuse qui descend, symbolise que le serviteur de Dieu est entièrement consacré pour le ministère. La rosée de l'Hermon descend de la montagne vers la plaine et ne s'arrête pas en chemin. Elle descend entièrement de la montagne. C'est toute la plaine qui est arrosée et bénie par cette rosée. Comme l'huile est une bénédiction pour le sacrificateur, la rosée est une bénédiction pour la plaine, pour la terre. Et cela nous montre que l'unité est une bénédiction pour les frères. David prend deux images pour illustrer cette bénédiction qui existe entre frères dès l'instant où ils sont ensemble. Non seulement c'est une bénédiction pour les frères, mais aussi une bénédiction pour notre service, une bénédiction pour l'Église, à la gloire du Seigneur. Lorsque David a écrit ce psaume, c'est ce qu'on appelle le psaume des montées, il faut savoir qu'auparavant, le peuple d'Israël avait été déchiré, avait connu la guerre civile, avait connu un schisme. Le nord avait été déporté, le sud a été déporté. Et ce psaume évoque prophétiquement le bonheur du peuple réuni comme un seul homme pour monter à Jérusalem adorer le Seigneur. Je dis bien, ce psaume illustre le bonheur du peuple réuni comme un seul homme pour monter à Jérusalem adorer l'Éternel leur Dieu. Ce n'est plus un peuple qui était désuni, plus un peuple exilé, mais un peuple qui a retrouvé sa terre, un peuple qui est uni par la même foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On peut dire, heureuse la nation, heureuse l'Église, heureuse la maison où cet esprit béni de l'unité habite. Heureuse la nation. Heureuse la maison. Heureuse l'Église où cet esprit habite, mes amis. Voyons l'huile sainte comme première image. Lisons ensemble dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 30, verset 25. Donc Genèse, Exode, voilà, dans l'ordre. Exode 30, verset 25. Et c'est l'Éternel qui parle par la bouche de Moïse en disant ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Cette huile était précieuse, parfumée et unique. Sa composition et sa nature étaient voulues de Dieu. Il consacrait tout le service et aucun service ne pouvait être rendu sans cette huile. C'est une huile indispensable, mais surtout voulue par Dieu pour le service que le prêtre devait accomplir. Et cela nous rappelle que nous aussi, en tant que chrétiens, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Dieu a voulu que nous soyons tous en Jésus-Christ consacrés pour son œuvre. De même qu'il était impossible aux sacrificateurs de servir Dieu sans la présence de cette huile sainte, de même pour l'Église, c'est pareil. Il nous est impossible de pouvoir servir Dieu sans l'huile sainte de la communion fraternelle. La communion fraternelle est quelque chose de précieuse qui a une bonne odeur, l'odeur du Christ. Dieu a voulu cette huile, comme Dieu veut aussi dans notre Église, cette unité qui est ce bon parfum, cette bonne odeur du Christ. Heureuse l'Église où cette unité existe. Ah, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dieu veut que son peuple soit uni devant lui pour pouvoir le servir et l'aimer. Et l'image de la rosée donne la fertilité. La rosée donne la beauté et la santé à la terre. On ne peut imaginer une terre cultivable sans cette rosée du matin. On ne peut pas l'imaginer. C'est indispensable que d'une manière un petit peu mystérieuse pendant la nuit, au matin, cette rosée apparaisse. Personne ne peut dire comment cette rosée se forme. Peut-être les scientifiques, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas scientifique. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de mystérieux. Une rosée qui apparaît comme ça le matin. Mais cette rosée qui arrose la terre, qui lui donne la fertilité, qui lui donne sa beauté, est une bénédiction qui vient d'en haut. Là encore, c'est une vérité qui s'applique à l'Église. On peut dire que divinement, Dieu arrose chaque jour son Église pour qu'elle soit fertile et porte du fruit à sa gloire. Chaque jour, Dieu arrose son Église. Amen. La nation, l'Église, la maison où l'unité règne sera en bénédiction pour les hommes à la gloire de Dieu. Alors, quelles sont les conditions de cette bénédiction? La fréquentation. Nous devons venir ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous devons être ensemble, mes amis. Ce n'est pas toujours facile, je le reconnais, de prendre le temps avec les uns et avec les autres. Mais c'est une des conditions de cette bénédiction. Prendre le temps. Il n'y a pas d'unité dans la solitude. Nous sommes plusieurs membres mais un seul corps. Et c'est dans l'Église de Jésus-Christ que nous pouvons comprendre la vraie nature, le vrai sens du mot communion fraternelle, où il n'y a pas de séparatisme, où il n'y a pas d'esprit de séparation, mais esprit d'unité, mes amis. Donc la fréquentation, prendre le temps d'être ensemble, apprendre à être ensemble. Deuxièmement, la variété. Il n'y a pas d'unité dans la simple répétition des mêmes choses. Je ne suis pas musicien, mais je suis mélomane. J'aime écouter la musique. Et la musique, c'est quoi? C'est un ensemble de sons différents. De même, dans l'Église, nous sommes tous différents. Nous avons tous une culture différente, une éducation différente, un caractère différent. Et naturellement, tout nous oppose. Naturellement, tout nous éloigne de l'unité, à cause de ce que je viens de dire. Mais la bonne nouvelle, mes amis, la puissance de Dieu, c'est que Dieu est capable, avec des gens d'arrière-plan différents, de cultures différentes, de caractères différents, de pouvoir faire vivre cette unité. Cette unité. Dans une famille, dans une fratrie, frères et sœurs, ils ont tous la même éducation, la même culture, mais pas le même caractère. Et bien souvent, dans une même famille, ça se déchire. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, mes amis, seul Dieu est capable de créer cette unité. Alors que tout s'opposait, mais Dieu est capable de créer cette unité. Et ça, c'est la puissance de son esprit. Mais aussi la liberté. Il n'y a pas d'unité où la liberté n'existe pas. Il n'y a pas de réel sentiment d'accord s'il n'y a pas la possibilité d'être en désaccord. Mais il y a aussi la vie. Vous savez, en France, dans tous les cimetières, il y a une rue. La rue de la paix. Pas très loin. Parce que dans un cimetière, c'est la paix. C'est la paix. Les morts sont en paix. Les morts ne se bagarrent pas, mes amis. Les choses mortes ne se querellent pas. Par contre, c'est normal dans une église qu'il y ait des divergences d'opinion sur les choses mineures. C'est normal dans une église que nous n'ayons pas tous d'accord sur les mêmes choses. Dès l'instant, bien sûr, où nous sommes d'accord sur l'essentiel. C'est normal dans une église qu'il y ait des frottements, des tiraillements, voire des querelles, dès l'instant où on se demande pardon. L'église est en vie. Et une église qui bouge, où les frères et les sœurs se frottent, se querellent, se pardonnent, se réconcilient, pleurent et rient ensemble, souffrent et portent ensemble le même fardeau. C'est ça l'église. Où c'est la vie. Et tout cela, bien sûr, dans le respect et l'amour du prochain. Je ne peux être pas d'accord avec mon frère, dès l'instant où je le respecte, dans la liberté du Seigneur Jésus-Christ. C'est normal. Je dirais même que c'est indispensable qu'il y ait des frottements. Parce qu'une église, elle n'est pas morte. Parce qu'une église qui est morte n'est pas forcément une église en paix. Pas forcément une église en paix. Par contre, une église qui est en paix, c'est une église où il y a ce frottement, ce tiraillement, mais il y a la grâce du pardon. Il y a l'humilité qui me pousse à demander pardon lorsque je reconnais ma faute, mon erreur. Donc les conditions, c'est la fréquentation, la variété, la liberté, la vie qui font que nous pouvons vivre cette unité. Mais quelle est la vraie source? Qu'est-ce qui nous unit? C'est l'Esprit de Dieu. l'esprit du Christ, l'esprit de la Pentecôte, mes amis. C'est ça, c'est cet esprit qui permet au peuple de Dieu de pouvoir vivre cette communion fraternelle. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, grâce à l'esprit de Dieu. À l'époque, David n'avait pas encore toute la compréhension du plan de Dieu. Si David l'avait, David aurait dit, grâce à l'esprit de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, grâce à l'esprit de Dieu, nous pouvons dire, ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, grâce à l'esprit de Dieu. Seul Dieu est capable d'unir les hommes sans considération de race, de couleur de peau, de condition sociale, de sexe pour former un seul corps. Seul Dieu est capable de nous faire considérer les intérêts des autres avant les nôtres. C'est pourquoi l'Église est le lieu où la communion fraternelle a tout son sens et doit régner comme témoignage aux yeux du monde. Ce n'est pas pour rien, comme je l'ai dit au début, que dans le Nouveau Testament, le mot frère revient 350 fois dans le Nouveau Testament. Parce que c'est dans le Nouveau Testament que le mot frère a tout son sens. Si je veux savoir qu'est-ce qu'un frère, je lis le Nouveau Testament. Je demande à Dieu de m'éclairer. Et Dieu me montrera le vrai sens du mot frère. Alors, pourquoi avons-nous du mal à vivre l'unité entre frères? Pourquoi ce troisième pilier, qui est la fraternité, n'est pas souvent vécu? La charte française, c'est liberté, égalité, fraternité. Savons que le mot fraternité n'a pas son sens. Au début de l'Église, les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Malheureusement, le troisième pilier n'est pas toujours atteint. Pourquoi ? Parce que nous oublions tous que sans le secours de l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Nous savons que nous sommes tous différents par notre culture, notre éducation, notre caractère. Mais, mes amis, n'oublions pas que l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, le diable, fait tout pour détruire la communion fraternelle. Le diable fait tout pour nous isoler. L'ennemi cherche toujours à nous donner une mauvaise image de l'autre. Ah, l'autre, il est comme ça. Ah, il aurait dû être comme ça. Ah, pourquoi il n'est pas comme ça? J'aurais souhaité qu'il fût comme ça. On a toujours une mauvaise image de l'autre. Et ça, c'est l'ennemi qui insinue dans notre esprit ces pensées-là. Parce que nous éloigner de l'unité, c'est de nous éloigner de notre force. Plus les chrétiens sont ensemble, plus ils sont forts. C'est vrai que la force est en Christ, mais la force en Christ se manifeste dans l'unité de son peuple. L'ennemi veut nous isoler ou que nous isolions tel ou tel frère, délaissant qu'il a commis une faute. Ah, il a fait ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi a-t-il fait ça? Donc, très facilement, on va l'isoler. Alors que la Bible nous dit que si j'ai vu un frère commettre un péché, d'aller vers lui, le reprendre dans l'amour du Christ, dans la liberté, prier avec lui, voir en parler aux responsables, voir en parler à l'Église. Le but, c'est de ramener le frère à Christ. Le but, c'est de le racheter par notre amour, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'ennemi veut que nous isolions tel ou tel frère. Parce qu'un frère qui est isolé est plus facilement vulnérable. Un frère qui s'éloigne de la communion fraternelle, qui s'éloigne de l'unité, est plus facilement une proie à l'ennemi. Mais la Bible nous rappelle que la grâce en Jésus-Christ, c'est de pouvoir marcher ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres. J'aime beaucoup ce verset qui dit, dans Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux. Et les frères et les sœurs en Jésus-Christ, ont pour vocation de porter les fardeaux. La vie n'est pas facile, mes amis. La vie n'est pas facile. D'autant plus que nous vivons des temps difficiles. Mais quelle grâce, quelle bénédiction pour des frères et des sœurs de pouvoir porter ensemble leur fardeau. Parce que il est dit qu'un fardeau partagé est un fardeau à moitié. Allégé, voilà. Et en tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à partager nos fardeaux. Personne ne peut dire « j'ai pas de fardeau ». Nous avons tous des fardeaux, mes amis, plus ou moins lourds. Mais la communion fraternelle, la vie dans l'Église, c'est de pouvoir partager ensemble nos fardeaux. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, Dieu nous appelle à conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix en regardant ensemble au Seigneur, ressuscité et glorifié. Nous avons tous besoin, mes amis, de réapprendre ce qu'est la communion fraternelle et l'importance de cette réalité dans notre vie spirituelle et d'Église. Dieu se sert de chacun d'entre nous pour aider, pour bénir son Église. Lorsqu'un frère a besoin d'aide, c'est un autre qui vient. Lorsqu'une sœur a besoin d'aide, c'est une autre qui vient. Dieu nous utilise les uns les autres pour encourager, pour aider les uns les autres. C'est pourquoi il est important d'apprendre à être à l'écoute des uns des autres. Parce que qui sait que Dieu peut nous utiliser pour bénir, pour encourager un tel ou une telle? Parce que nous sommes tous appelés, en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, à être à côté des uns et des autres. Et c'est ça le résultat, la bénédiction de Dieu. Pour conclure, que pourrions-nous dire sur la communion fraternelle, sur la fraternité? Si le mot frère est très présent dans l'Ancien Testament, le terme de communion fraternelle prend tout son sens dans le Nouveau Testament, à cause de la dimension spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ apporte par son esprit. En effet, c'est par l'effusion de l'esprit que l'Église peut marcher et vivre la vraie fraternité. Ce n'est pas dans le monde, mes amis, qu'on peut trouver le sens du mot fraternité, mais c'est dans l'Église. C'est en Jésus-Christ que nous reconnaissons tous que nous sommes unis par le lien spirituel pour former le corps du Christ. Alors que Dieu nous aide, dans sa grâce, non seulement à persévérer, mais aussi à redécouvrir le vrai sens du mot communion fraternelle pour sa gloire. Amen. Tony.